l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Toulouse, 97.9.
Toulouse, ça fait plaisir d'entendre le nom de cette belle ville, la Ville Rose. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au début de cette semaine avec le sourire. Bonjour David Torchala, vous êtes tout sourire ce matin.
Bonjour Philippe, oh, la Ville Rose, vous dites ça avec...
Mais c'est beau la Ville Rose, moi j'aime bien aller me balader. On salue d'ailleurs tous les Toulousains qui...
C'est vrai, on les salue.
...qui nous écoutent. Allez, au sommaire de ce magazine avec vous dans quelques instants, on va prendre la pelle et la pioche, on parle de travaux je crois au sanctuaire.
Ah oui, oui. C'est vrai que l'heure est aux travaux, c'est ça l'hiver à Lourdes, il faut se parer, se préparer à l'arrivée des pèlerins.
Et vous allez nous parler d'une anecdote assez croustillante sur les oiseaux à Pidis.
Ah oui, ça vous a fait rire, les oiseaux dans la basilique souterraine Saint-Pidis.
Alors on ne dira pas plus puisqu'on va, garder un petit peu le suspense. Alors si vous êtes dans la voiture, mais vous vous arrêtez pas, hein, vous restez avec
nous. Vous allez avoir le secret des oiseaux dans la basilique Saint-Pidis, ça ne fait pas rire tout le monde.
Allez, et puis après on partira sur Tarbes où se tenait ce week-end les portes ouvertes du centre de formation pour les apprentis. C'est l'occasion aussi de découvrir un peu ce qu'est le CFA et puis la chambre de métier. Et puis en troisième et dernière partie, ce sera comme tous les lundis, de passage à Lourdes avec Mathias Thérier. Il est avec Raphaël Pointier, un catéchumène baptisé lors des dernières fêtes de Pâques, venu récemment à Lourdes. Un échange personnel et profond sur sa foi, sur son parcours et la place singulière de Lourdes qui occupe désormais dans sa vie. Voilà, un très beau témoignage avec Mathias Thérier dans le magazine de passage à Lourdes. Allez, on retrouve toujours nos jeunes qui sont à l'école et en formation de l'école de journalisme. Et c'est nous que nous retrouvons pour les titres.
L'Université Toulouse Capitole lance son centre d'excellence nommé AEROD, c'est-à-dire Aérospatiale, Défense et Sciences Humaines. Le centre d'excellence s'appuiera sur l'expertise d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de l'Université Toulouse Capitole, en partenariat avec les acteurs de la défense que sont l'ONERA et l'ISAE Supaéro. Le conseil départemental du GERS invite ses citoyens à s'inscrire à la seconde commission consultative citoyenne. Si vous avez plus de 16 ans et que vous êtes citoyen gersois, vous avez jusqu'au 12 avril pour déposer votre dossier. Les membres seront ensuite tirés au sort pour une durée de 2 ans. La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées lance son appel à projet Terre de Sport avec une enveloppe de 100 000 euros. Ce dispositif de mécénat est destiné à accompagner les clubs et associations sportives engagées en faveur d'un sport utile, inclusif et accessible à toutes et tous. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et ce jusqu'au 31 mars. Dans le Lot, un appel aux dons est lancé pour restaurer l'église de Casteljaloux. Pour cette nouvelle étape, une collecte a été lancée pour faciliter la restauration des chapelles, de l'orgue et des tableaux. Pour faire un don à l'église Notre-Dame de l'Assomption, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet de la Fondation du Patrimoine ou par chèque à l'ordre indiqué sur le site. Enfin, le festival des Naturo Games de Millau 2026 est annulé. Les organisateurs évoquent une situation économique difficile. Attendu chaque année par les passionnés de sport de plein air et les amateurs de musique électro, ce festival aveyronnais ne se tiendra pas en raison de problèmes de financement.
Voilà, ces titres et bien d'autres seront développés tout à l'heure à partir de 12h30 avec le journal de la mi-journée.
Présence dans la cité mariale 96.
David est resté bien sûr avec nous, comme tous les lundis, pour nous parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors David, je crois qu'on va parler de travaux aujourd'hui.
Ben oui, pour si vous êtes venu récemment à Lourdes, vous savez que c'est plutôt calme, nous n'avons pas les fortes affluences, et c'est bien normal, même si
il y a toujours un peu de monde.
Oui, il y a toujours un peu de monde, mais il y aura aussi pas mal de monde. Mais finalement, au mois de janvier, vous l'avez vu, il y a des camions de chantier partout. Dans la ville, voilà, tout le monde y va de son coup de peinture est bien nécessaire, et le sanctuaire aussi, évidemment. Chaque année, chaque hiver, prend vraiment tout un plan du sanctuaire, et il y a toujours des besoins, hein, de rénover, de faire du propre. Vous savez, le sanctuaire, c'est plus de 50 hectares.
Et oui.
Donc c'est dire qu'il y a évidemment énormément de chantiers à faire, et puis toujours de continuer à accueillir du public. Alors c'est pour ça que l'hiver, eh bien, c'est un peu plus propice pour parfois restreindre quelques accès, mais voilà. En tout cas, alors je vais évidemment pas vous égrener toute la liste des travaux parce qu'elle est vraiment trop longue, mais vraiment quelques points. Nous venons de terminer la fin des travaux de filtration des piscines. Alors ça, c'est un chantier qui a démarré déjà depuis 2023, puisque progressivement, ben maintenant c'est fait, les 17 baignoires donc exclusivement dédiées à l'immersion des pèlerins seront maintenant mises en place, hein, donc conformément à leur conception initiale, puisqu'on le sait que jusqu'à présent on pouvait vivre ce geste, hein, de l'eau, hein, d'aller boire à la source, de se laver le visage à l'intérieur des piscines accueillies par les hospitaliers. Et bien voilà, nous revenons aux bonnes habitudes de pouvoir proposer en tout cas l'immersion complète pour les pèlerins. Et donc voilà, c'est un chantier important de filtration qui s'est échelonné sur maintenant, voilà, depuis 2023, et donc c'est maintenant terminé, avec tout un travail aussi de désinfection des linges, des peignoirs, des pagnes, etc. Et alors aussi un autre point important, c'est le chemin de croix des Espélugues. Pour ceux qui connaissent Lourdes, et quand on lève la tête, eh bien oui, il y a cette montagne, ce mont des Espélugues, cette montagne qui surplombe le sanctuaire, eh bien il abrite le chemin de croix. C'est un chemin de croix immense, il fait plus d'un kilomètre et demi, 15 stations avec 115 statues de plus de 2 mètres chacune. C'est peut-être chauvin de le dire, mais je crois que c'est assez vrai. C'est un des chemins de croix les plus beaux de France. Mais en tout cas, assez monumental comme ça. C'est vrai qu'il en existe, peu. Et voilà, avec le temps, vous savez, ça fait partie des chantiers que l'on reporte d'année en année, se disant, bah, tiens, on fera plus tard quand on parviendra à réunir, hein, des dons suffisants pour faire les travaux. Bon, cette fois, il faut y aller. Il faut vraiment le rénover, le restaurer, parce que voilà, il y a eu un diagnostic, hein, patrimonial qui a été fait, d'ailleurs, en lien avec l'université de Pau et des Pays de la Dourdes, pour être vraiment fin dans le diagnostic patrimonial. Eh bien, le temps passe, le gel, le dégel fait abîmer donc les structures, donc toutes ces statues de bronze. Ben voilà, il y a des trous, il y a de la mousse, il y a de la rouille. Je sais pas si c'est tout à fait de la rouille sur de la fonte, mais enfin, il y a vraiment tout ça. Et donc il est vraiment besoin, avec aussi les intempéries, et puis avec le passage aussi constant des pèlerins qui viennent, qui gravent, qui taguent aussi, enfin, en tout cas qui veulent laisser un peu leur place, leur passage, en tout cas marquer leur passage au chemin de croix. Donc il sera bon de le restaurer, hein. C'est un montant global de 200 000 euros sur la première enveloppe, qui évidemment ne pourra pas tout faire en 2026, il faudra également reporter en 2027, mais voilà, ça sera un grand chantier pour de sauvegarde, hein, du patrimoine du sanctuaire. Il y a aussi d'autres chantiers, alors là moins visibles, vous savez, il y a toujours les travaux qui sont visibles, le chemin de croix, ça va être vraiment visible, et donc chacun peut s'y associer avec la générosité qui lui convient. D'autres sont des travaux plus invisibles, notamment au sein de l'accueil Notre-Dame. C'est ce grand bâtiment avec 900 lits médicalisés. Et donc là aussi, le sanctuaire investit. Vous savez, il n'y a rien à vendre, rien à gagner. Mais quand on dit on investit, c'est que voilà, on fait rénover, on modernise en tout cas les installations. Ça sera le cas des nombreux ascenseurs. Et on terminera la vérification des 18 ascenseurs de la maison. Parce que la maison est grande et ça a des coûts pharaoniques, et c'est extrêmement important pour la sécurité des pèlerins malades, celui des hospitaliers. On va d'ailleurs refaire aussi le système de sonorisation à l'intérieur des étages. Vous n'imaginez pas cette fourmilière quand la procession démarre ou la messe internationale, il faut que tout le monde, ben, on s'appelle, il y a les appels de malades, etc., pour se mettre en place. Et donc, ben voilà, il ne fonctionnait plus ce système-là. Et donc vraiment pour garantir une communication fiable, fiable, sécurisé, pour voilà, permettre les annonces dans les étages, ça se fera. Mais vous savez, c'était rien que ça, c'est 100 000 euros.
Ben oui.
Tout coûte cher parce qu'il faut refaire les faux plafonds, passer dans les étages, etc. Même si ce sont des petites enceintes. Alors vous vous amusez tout à l'heure sur la basilique souterraine Saint-Pédis avec les petits oiseaux.
Et oui,
alors, vous savez,
c'est bucolique jusqu'à présent.
C'est bucolique parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte, mais moi, j'ai toujours aimé, en entrant dans la basilique souterraine, alors, qui est vraiment souterraine, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien de tout ça, on entend toujours des chants d'oiseaux, on entend les oiseaux qui chantent, moi, je trouve tout ça formidable, jusqu'au moment où l'organiste du sanctuaire m'a dit, ça t'amuse, les chants des oiseaux, viens voir. Et donc, en ouvrant l'orgue de la basilique souterraine Saint-Pédis, voilà, on se rend compte que les oiseaux laissent sur leur passage quelques traces sur les 3600 tuyaux de l'instrument.
Ils font leur besoin, voilà.
Il y a des fientes d'oiseaux un petit peu partout et c'est assez grave. Bon, alors, vous savez, il y a déjà un sujet, c'est-à-dire que la basilique souterraine Saint-Pédis avait déjà souffert des inondations de 2013. Donc, l'eau avait complètement immergé la basilique. Donc, évidemment, un instrument de musique avec de l'humidité, ça ne fait pas bon ménage. Il y avait déjà eu des premiers travaux. Et il faut continuer parce que cette humidité, entraîne des problèmes, des faussetés, etc., et des problèmes aussi électriques, et donc on ajoute ça aux oiseaux, et donc ça nous fait 3 mois de travail puisqu'il faudra démonter totalement l'orgue, et donc avec un certain coût aussi de prise en charge sur tout le démontage, le remontage, parce qu'il faut, c'est pas tout le démonter, il faut vraiment le remonter
et le réaccorder,
et qu'il puisse sonner pour justement les grandes célébrations qui démarreront au moment des rameaux. Voilà, puis alors il y a d'autres travaux en ce moment, si vous rentrez aussi dans la basilique du Notre-Dame du Rosaire, sur la gauche, il y a cette magnifique chapelle ukrainienne qui a été offerte par les pèlerinages ukrainiens à l'époque où on met en fait la statue de la Vierge Marie que l'on porte en procession avec ses votives qui est magnifique. Là aussi, il y a un besoin de restauration, donc elle est en cours de restauration, cette chapelle, ainsi que la sacristie aussi qui est attenante. Mais tout, pour autant, la basilique reste ouverte. Donc il faut arriver à faire de la place pour tout le monde. Et puis voilà, des travaux, il y en a. Puis il y en aura aussi beaucoup sur les sanitaires. Vous savez que les sanitaires, on a compté entre 8000 et 9000 passages par jour au sanctuaire. Donc quand on tire 8000 fois, 9000 fois sur la chasse d'eau, et ben forcément, à un moment, il faut réparer tout ça. Et donc voilà, c'est un chantier là aussi, peut-être peu visible, mais qui est vraiment essentiel pour garantir l'hygiène, le confort et puis la dignité de tous les visiteurs. C'est ça notre responsabilité. C'est de pouvoir au moins rendre et proposer un accueil digne à toutes les personnes qui se présentent à la grotte de Massabielle.
Voilà, des travaux, et puis quand vous donnez les chiffres, ça va très 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 vite, ça monte très très vite et ce sont des sommes incroyables.
Ce sont des sommes qui sont importantes, qui sont aussi à l'échelle de la grandeur du sanctuaire, mais vous savez, sans les dons, nous ne pouvons rien. En tout cas, aussi quand vous faites un don au sanctuaire, voilà à quoi vous contribuez. Vraiment, chaque projet, chaque pièce est importante pour permettre d'entretenir, de garder ce lieu, de le moderniser aussi. Et donc il y a des chantiers visibles, il y en a d'autres invisibles, mais ça fait un tout.
Merci beaucoup David Torchala, on vous retrouve tout sourire, je l'espère, la semaine prochaine pour nous parler encore du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis on va arriver bien sûr en février, et février, il y a des dates importantes autour du 11 et puis du 18.
Ah oui, je vous parlerai de tout ça lundi, j'ai prévu de... Oui, vous me donnerez du temps quand même.
Mais tout ce que vous voulez David.
Oh, pour parler de Lourdes.
Vous étiez où ici.
Prendre le temps. Merci merci à tous.
À la semaine prochaine. Allez, j'ai sélectionné un chanteur qui va sûrement vous faire plaisir, il s'appelle Grégoire, ça vous rappelle souvenir.
Oui.
Allez, la chanson s'appelle Vivre. Merci David, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. À plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au enragés, le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésie, sans être abrutis de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson, chantée par le chanteur Grégoire à l'instant avec Vivre. Je vous entraîne à Tarbes, il y avait le week-end dernier les portes ouvertes au centre de formation des apprentis. L'occasion de faire un point sur la chambre des métiers.
94.
Bonjour Daniel Pugès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, nous allons évoquer aussi l'avenir des jeunes. Faut-il remettre en avant les CAP, BEP et bac professionnels? On prend le temps de découvrir donc la chambre de métier dans cette émission. Daniel Pugès, vous êtes président depuis 2010.
Tout à fait.
Mais vous êtes là depuis de nombreuses années, oui, actif à la chambre de métier de l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être aussi présent et prendre la présidence?
Alors, effectivement, je suis rentré en chambre de métier en 1989. J'ai été élu membre du canton de Séméac, installé en tant que chef d'entreprise en électricité à Barbazan-de-Bade depuis avril 88. Le besoin de servir, l'envie de rendre service, accompagner les entreprises. Quand je me suis installé, j'ai été accompagné par la chambre de métier de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. J'ai passé mon brevet de maîtrise, donc formation, et je me suis dit que cette structure qui est gérée par des élus, des chefs d'entreprise qui sont élus au moment d'élection en chambre de métier, qui sont renouvelables tous les 5 ans, sont au service de l'ensemble des entreprises artisanales des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, nous avons plus de 9000 établissements dans les Hautes-Pyrénées et nous avons vocation de les accompagner pour la création, pour la transmission, pour le développement, pour la formation, pour l'embauche. Voilà, on est présent aux côtés des chefs d'entreprise. Et cette réelle envie de servir le secteur des métiers, de servir bien entendu mon territoire avant tout, puisque je suis un Haut-Pyrénées de naissance, et je crois qu'il faut le faire, il faut y croire et il faut s'investir un maximum pour ne laisser personne sur le bord de la route. Les entreprises ont besoin de nous, on est là, il faut qu'elles le sachent et je les remercie. Et puis je salue d'abord tous les auditeurs que vous avez, bien entendu, j'aurais dû commencer par ça, leur dire qu'on sert, pour eux, c'est leur outil géré par des collègues. Voilà.
Comment se porte d'ailleurs le monde de l'artisanat, particulièrement dans le département de Haute-Pyrénées? Est-ce que vous avez des défections d'entreprise?
Alors, le monde de l'artisanat se porte un petit peu comme le monde en général, c'est-à-dire qu'il est en souffrance aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'activité soit florissante, on ne peut pas dire que l'embauche soit facile, on ne peut pas dire que l'achat de matières premières soit facile, on ne peut pas dire que l'énergie coûte pas cher pour les entreprises qui sont de gros usagers d'énergie. Je pense aux boulangers, je pense aux carrossiers, aux mécanos qui ont des notes d'électricité très élevées. Malgré tout, la particularité qu'a le chef d'entreprise, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, c'est de répondre par la réaction immédiate, par la réactivité, par la reconstruction de projets à toutes les crises. On a des crises depuis que le monde existe. On a vécu quelque chose que personne ne pouvait imaginer, c'est la crise sanitaire, où du jour au lendemain, les exploitations ont cessé. Malgré ça, le tissu économique d'Haute-Pyrénées n'en a pas trop souffert. On a toujours dans les vallées des chefs d'entreprise qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. On a dans toutes les vallées des exploitants qui sont présents, qui font à la fois le lien social, le lien sociétal, qui font la richesse du territoire parce que leur activité n'est pas délocalisable. Un homme et une femme qui se lèvent tous les jours exploitent une entreprise qui est au service de la citoyenneté aux Pyrénéennes et dont les produits sont réinjectés dans le tissu économique de Haute-Pyrénées. Et ça, il faut le souligner. Donc moi j'invite tous les auditeurs à faire leur achat dans les boutiques de proximité, à faire vivre le tissu économique local, aller chez le petit artisan, petit c'est péjoratif parce que ce sont des grands hommes et des grandes femmes, mais aller dans les tissus artisanaux pour faire aux achats, et vous verrez qu'on continuera à tirer notre épingle du jeu.
Est-ce que quelque part, le monde de l'artisanat se porte un peu mieux que celle du commerce? Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter via Internet, mais si on veut se mettre une prise, on ne peut pas aller sur www, je mets une prise, et donc si vous changez, si je suis obligé d'une fuite, je vais faire appel à un sanitaire, et si j'ai besoin d'un charpentier, alors que c'est vrai que le commerce, par rapport à l'artisanat, a une concurrence peut-être mondiale.
Alors c'est un bel exemple que vous avez pris par rapport à des travaux qui sont des travaux purement de main d'œuvre. Aujourd'hui, dans tous les métiers qui touchent la conception de produits dans le bâtiment, dans l'alimentaire, ce sont des confections qui sont dites artisanales, qui sont de qualité. Cela ne souffre pas trop de l'achat dématérialisé et de l'achat mondial. Il est clair que l'action de commerce pur, Elle souffre des achats, et des achats pas chers, et des confections pas chères, et des fois des confections qui sont faites par une main d'œuvre qui est plus qu'exploitée. C'est vraiment l'esclavage industriel. Nous, en ce qui concerne
le textile, par exemple,
oui, pour pas le citer, le textile, pour pas citer certaines marques chinoises qui envahissent aujourd'hui le territoire. Mais je me mets à la place du citoyen qui a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui affaibli, qui est diminué, et qui veut malgré tout s'habiller, qui veut avoir la possibilité de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage familial. Il est clair que si l'achat est de qualité moindre, il permet aussi peut-être de le renouveler plus souvent. Et quand il est moins cher, il est utilisé plus facilement que un achat qui est dit soi-disant plus cher. Mais est-ce que, et je le dis souvent moi en rigolant, est-ce qu'une Mercedes c'est plus cher qu'une Clio? Pas forcément. Pourtant, les deux véhicules permettent de ne pas se mouiller quand il pleut et permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Mais il faut des portefeuilles pour les uns et des portefeuilles pour les autres. Chacun peut acheter ce qu'il souhaite acheter. Et aujourd'hui, l'artisan...
Ce qu'il peut.
Mais l'artisan.
Sur les deux exemples que vous avez donnés.
L'artisan tire son épingle du jeu parce que il fait de la qualité. Et qu'on le veuille ou non, certains produits qui sont moins chers sont malheureusement bien souvent moins bons. Alors, il n'est pas forcé non plus que le plus cher soit meilleur. Mais malgré tout, le plus cher a une qualité différente. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au tissu artisanal de démontrer sa force par la qualité, la présence, et puis surtout les amplitudes horaires, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, un artisan, c'est là tous les jours, 24 heures sur 24.
Je dis au préambule de cette émission, on fait un cap sur l'artisanat, différence entre chaque métier ou celui du commerce. Comment on fait pour savoir si demain on veut une entreprise, si on dépend des commerces, des métiers ou des deux? Comment ça se passe? Et à quoi elles servent ces deux chambres consulaires?
Alors, les deux chambres consulaires sont au même titre que la troisième qui existe en France, c'est la chambre de l'agriculture. Elles sont indispensables pour un bon fonctionnement de toutes les structures. Chacune a sa vocation. Chambre d'agriculture, on le sait tous, c'est les agriculteurs. La chambre de commerce et d'industrie ne figure pas le terme artisanat. C'est commerce-industrie, c'est l'action de production de grande envergure et c'est l'action de commercialisation de produits. Et la chambre des métiers de l'artisanat, c'est tout ce qui est transformation de matière. Dans tous les métiers, on a plus de 250 de métiers aujourd'hui dans l'artisanat. Chaque fois qu'on va transformer de la matière, chaque fois qu'on va créer quelque chose avec de la matière, on est artisan. Et la double immatriculation, c'est le boucher charcutier qui fabrique son boudin, qui fabrique sa charcuterie et qui la commercialise. Donc l'action de commerce, il la vend. Le coiffeur, s'il vend des bijoux, s'il vend des shampoings, même si les coiffeurs, ils touchent la matière, c'est les cheveux, il est exploitant de l'artisanat. Mais le fait de vendre un produit, il devient commerçant. C'est l'action de commerce.
Double inscription.
C'est ce qu'on appelle la double immatriculation, avec une priorité à l'immatriculation chambre de métier de l'artisanat. Aujourd'hui, on a les restaurateurs, on a les fromagers. Un fromager qui fait de l'affinage, il est inscrit au répertoire des métiers parce que il prend du lait, il prend tout ce qu'il a besoin pour faire un fromage. Ça, c'est la partie artisanale. Mais derrière, quand il le vend, c'est la partie commerciale. C'est un petit peu ce qui met le flou aujourd'hui au niveau du législateur qui considère que nous sommes des cousins très proches. On est cousins, oui, c'est vrai. On a une partie d'ADN commune. Mais chacun doit garder son pré carré et chacun doit apporter un service indispensable aux ressortissants chambres de métiers et les CCI aux ressortissants commerce-industrie. Et c'est comme ça qu'on va arriver à accompagner l'entreprise, la TPE, où il y a un salarié avec un apprenti, et les sociétés comme Knopf, Socata, Daher, où il y a des centaines d'apprentis. Ce sont deux structures identiques avec des produits, des charges, un fonctionnement, compte d'exploitation, bilan, mais complètement différentes dans l'ADN profond de la constitution même de l'entreprise.
En parlant de formation, parce qu'on va évoquer ce volet formation, on va s'apercevoir que les CAP, BEP, Bac Pro, ce ne sont pas des voies de garage. Au contraire, aujourd'hui, si on cherche un électricien, si on cherche un plombier, si on cherche un maçon ou même un charpentier, on a du mal à en trouver. Donc, et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont difficiles, hein, un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'a pas trop envie de se mettre les mains dans la cambouis? Je sais pas, vous allez nous répondre à cette question. Mais avant, il y avait une formation obligatoire. Hein. Je me souviens, pour avoir été inscrit à une époque à la Chambre des métiers, j'avais trouvé ça un petit peu embêtant de suivre cette formation, et contraignant, et puis il fallait la payer, et puis il fallait y aller. Et en fait, quand on ressort de cette formation, on dit merci à la Chambre des métiers. Elle n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous le regrettez?
Bien entendu. Comme toute bonne chose qui n'existe plus, ça pénalise. Et ça pénalise aujourd'hui les nouveaux chefs d'entreprise. On est passé d'une formation qui était payante, certes, mais qui était qualifiante, qui était pas diplômante, mais qui était valorisante. C'était le stage préalable à l'installation, où tout chef d'entreprise passait sur les bancs de la chambre de métier, rencontrait tous les partenaires qu'il pouvait avoir dans son parcours professionnel, et avait surtout une orientation, un accompagnement, un soutien, une aide qui était vraiment spécifique à sa profession, à son métier, à son statut juridique. Le stage préalable à l'installation a été remplacé par une plateforme qui s'appelle la plateforme INPI, où aujourd'hui on s'installe avec trois clics. Je crois que c'est Raffarin qui avait dit, pour créer un SARL à l'époque, il fallait un franc et il fallait deux clics. Aujourd'hui, avec trois clics, vous créez une activité professionnelle. Sauf que derrière, ça arrive en chambre de métier, parce que nous les inscrivons encore aujourd'hui, et quand il manque une pièce, eh bien, quelque part, on est le détracteur du bon fonctionnement. Mais on ne peut pas s'inscrire si on n'a pas la totalité du dossier bien verrouillé. Et cette plateforme prive le contact humain avec des chargés de clientèle qui sont nos agents économiques, et Margot le fait régulièrement quand elle est dans la transmission d'entreprise, c'est d'écouter le porteur de projet en création, d'écouter le cédant en transmission et de voir avec cette personne comment on peut au mieux répondre à sa problématique. C'est indispensable pour, je crois, la pérennisation de nos entreprises.
Il y a certains secteurs d'activité où il faut le diplôme. Je pense par exemple au coiffeur, il faut avoir un diplôme qualifiant pour s'installer coiffeur. On peut être salarié, mais pour être en son entreprise...
La qualification est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui dans tous les métiers. Il faut qu'il y ait une qualification.
Si demain, j'ai pas le CAP électricien, je peux pas m'essayer électricien.
Si, à condition de justifier de 5 ans d'ancienneté dans la pratique du métier.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a des passerelles qui font que si on n'est pas diplômé avec la certification diplômante, on peut l'être par ce qu'on appelle presque de la VAE aujourd'hui, c'est-à-dire une ancienneté dans la pratique du métier. Et pour en revenir au coiffeur, l'exemple, il est pertinent dans la mesure où il fallait un BP pour ouvrir un pas de porte, c'est-à-dire ouvrir à la clientèle une parcelle de rue dans laquelle on rentrait dans un salon de coiffure. Obligatoire, le brevet professionnel. Les coiffeurs à domicile, il n'y a plus le brevet professionnel. Et les micro-entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de brevet professionnel non plus. Ce qui fait que même cette forme de protection qu'il y avait, parce qu'il faut savoir qu'un coiffeur vous met des produits chimiques sur la tête, et à un moment donné, ça peut être dangereux. Donc il y a une formation spéciale et spécifique. Mais ça s'est perdu petit à petit, tout simplement pour la simplification. On en parlait avec le SPI, c'était soi-disant compliqué de passer 4 jours, de payer à l'époque 200 euros pour 4 jours de formation. Quand on sait ce que ça rapporte à l'entreprise, c'est vraiment epsilon en dépense. Ben aujourd'hui, on n'a plus cette dépense, mais on n'a plus la qualité d'entreprise. Et dans le répertoire des métiers aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 80% de nouveaux arrivants qui sont sous le statut, sous le régime de la micro-entreprise. C'est ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, mais aujourd'hui, c'est le micro-social. Statut juridique qui est obligatoire en chambre de métier que nous inscrivons depuis 2010, depuis la loi Novelli. À partir de là, on se rend compte que les formations CAP, BEP, Bac Pro, qui étaient les formations en alternance, les formations en apprentissage dans les CFA de chambre de métier, elles ont baissé aussi. Parce que il est clair que celui qui prend un statut de micro-social, il n'a pas derrière l'idée de pouvoir créer, développer et faire de la formation et créer de l'emploi. Donc c'est un peu plus complexe.
Quelqu'un qui passe en micro-entreprise ne peut pas prendre un apprenti.
Alors, il est plafonné au niveau du chiffre d'affaires. Et s'il veut prendre un apprenti, il y a en face d'un contrat d'apprentissage, puisque c'est un contrat de travail, une rémunération. Et il faut un minima que l'entreprise fasse des produits pour pouvoir sortir des charges.
Et donc, on est au-delà.
Et à un moment donné, il faut basculer dans le régime de droit commun.
De droit commun.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir donné la possibilité à la Chambre de métier d'avoir ce temps de parole qui est quelque chose d'important en matière de formation, vous l'avez dit, je le rappelle, l'apprentissage voie royale pour trouver un emploi. Et puis, au niveau économique, les artisans, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être présent, il faut leur réserver les achats. C'est indispensable.
Écoutez, si on a le même accueil que vous, vous êtes dynamique à la Chambre des métiers, franchement, n'hésitez pas, franchissez la porte. Et si vous n'avez pas l'information immédiatement, on l'aura compris, vous demandez à vos collaborateurs, bien sûr, de trouver les réponses et de revenir vers l'artisan ou la personne qui veut créer son entreprise pour avoir toutes les réponses. Grand, merci à vous. On n'a peut-être pas donné l'adresse. Merci à vous. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, la Chambre...
Rue. Allez, 10 biches du 4 septembre.
Du 4 septembre, voilà.
À côté de la sécurité sociale.
Voilà, on centre-ville.
On fait angle de rue.
On fait angle de rue,
comme ça on l'a vu de partout.
Depuis des années.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Allez, on retrouve Loudonville pour l'actualité à la mi-journée avec le flash régional. Bonjour Lou.
L'Université Toulouse-Capitole lance son centre d'excellence nommé AEROD, c'est-à-dire Aérospatiale, Défense et Sciences Humaines. Ce projet d'un peu plus de 1,9 million d'euros est financé par la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie ainsi que par le ministère des Armées. AEROD s'inscrit dans une démarche de sciences sociales appliquées aux enjeux industriels, technologiques et stratégiques de la défense aérospatiale, avec pour objectif principal de structurer et d'animer une communauté de recherche dédiée à ces thématiques. Le centre d'excellence s'appuiera sur l'expertise d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de l'Université Toulouse-Capitole, en partenariat avec les acteurs de la défense que sont l'ONERA et l'ISAE Supaéro. Les industriels du secteur de l'armement, notamment Airbus Defence and Space, ont également prévu de participer au projet. Le conseil départemental du GERS invite ses citoyens à s'inscrire à la seconde commission consultative citoyenne. Si vous avez plus de 16 ans, que vous résidez dans le GERS et que vous avez envie d'agir pour votre territoire, rejoignez la commission. C'est le message adressé aux citoyens gersois par le département. À l'issue de l'examen des candidatures, 34 citoyens volontaires seront invités à donner leur avis et à formuler des propositions sur de nombreuses thématiques reliées aux actualités territoriales dans le domaine de la santé, de la solidarité ou encore des mobilités. L'année passée, les Gersois membres de la commission se sont formés à l'environnement territorial en vue de débattre, échanger et apporter leur expérience aux décisions du conseil départemental. Et vous avez jusqu'au 12 avril pour déposer votre dossier. Les membres seront ensuite tirés au sort pour une durée de 2 ans. La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées lance l'appel à projet Terre de sport avec une enveloppe de 100 000 euros. Ce dispositif de mécénat est destiné à accompagner les clubs et les associations sportives engagées en faveur d'un sport utile, inclusif et accessible à toutes et tous. En 2024, la Caisse d'épargne avait illustré son engagement par un partenariat avec les Jeux de Paris 2024 et le Relais de la Flamme. Dans la continuité de son plan stratégique Entreprendre ensemble pour construire demain autrement, la banque souhaite désormais encourager les initiatives sportives qui contribuent à l'héritage des Jeux et participent au développement du sport sur l'ensemble du territoire Midi-Pyrénées. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et ce jusqu'au 31 mars. Dans le Lot, un appel aux dons est lancé pour restaurer l'église de Casteljaloux. Les travaux sont maintenant entamés à l'intérieur de l'église Notre-Dame de l'Assomption. En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la mairie de la commune avait déjà consacré une première phase de rénovation à la toiture de l'édifice. Pour cette nouvelle étape, une collecte a été lancée pour faciliter la restauration des chapelles, de l'orgue datant de 1846, des tableaux, etc. Le coût total des travaux est estimé à plus de 185 000 euros. Dans un premier temps, la cagnotte, elle, était fixée à 85 000 euros. Pour faire un don à l'église Notre-Dame de l'Assomption, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fondation du patrimoine ou par chèque à l'ordre indiqué sur le site. Enfin, le festival des Natural Games de Millau 2026 est annulé. Les organisateurs évoquent une situation économique très difficile. Attendu chaque année par les passionnés de sport de plein air et les amateurs de musique électro, ce festival aveyronnais ne se tiendra pas en raison de problèmes de financement. Une annonce a été faite par les organisateurs jeudi dernier sur les réseaux sociaux de leur association. Nous avons réuni le conseil d'administration de l'association qui a acté à l'unanimité l'impossibilité de reconduire l'événement cette année. La maire de Millau, Emmanuelle Gazelle, s'est montrée triste mais compréhensive. La commune avait, par le passé, soutenu financièrement et matériellement la manifestation, tout comme la région.
Merci beaucoup Loudonville, voilà pour l'actualité. Elle est étudiante à l'école de journalisme de Blagnac et on salue tous ces étudiants qui sont avec nous chaque jour de la semaine. Le retour de l'actualité, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Tout de suite, on va parler de catéchuménat dans Deux Passages à Lourdes, présenté par Mathias Terrier.
Présence
Deux Passages à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité, notre témoin dans cette émission est Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
À 20 ans, on peut dire que votre vie bascule peut-être dans une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Vous avez été baptisé le 19 avril 2025.
C'est ça.
Félicitations.
Merci beaucoup.
On est très heureux pour vous. Vous allez nous raconter ce parcours.
Oui.
Comment vous en êtes venu là? Alors même que on peut dire que vous n'avez pas eu de transmission familiale sur ce terrain du baptême ou de
j'étais
la foi
catholique. J'étais pas prédisposé à arriver à la conclusion de me faire baptiser, c'est sûr.
Vous voyez plein de signes dans votre vie. Vous nous direz aussi comment vous vous sentez guidé quelque part. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous vous sentez bien dans vos baskets? Vous faites quoi dans la vie?
Honnêtement, je pense que c'est depuis très récemment que je peux dire que je vais franchement bien. C'est un sentiment de paix. Évidemment, la foi est quelque chose qui se travaille en continu. Mais comment dire, ce travail de foi m'a donné vraiment un confort, une paix intérieure que je n'ai pas trouvé, disons, dans ma vie pré-catéchuménat, en tout cas, on peut le dire. Et j'avais besoin, en tout cas, d'ordonner cette vie parce que je sentais que la société nous amène vers une vie un peu désordonnée ça m'a apporté vraiment un confort, une paix.
Donc, vous vous sentez bien?
Oui.
Vous êtes opticien?
Oui, c'est ça.
Bien dans votre métier?
Je suis bien dans mon métier. J'ai trouvé une manière, en tout cas, d'aimer mon métier encore plus.
C'est-à-dire?
Durant mon parcours de catéchuménat, j'ai mon accompagnateur, Antoine Calapier, qui m'a conseillé le parcours Zachée. C'est quelque chose d'assez connu. Et il y avait un épisode qui m'a beaucoup intrigué, qui parlait du fait d'être acteur de la création. C'est vrai que dit comme ça, enfin, pour quelqu'un qui est fraîchement dans l'église, j'étais un peu, je comprenais pas trop la question. Et en fait, ça a pris tout son sens dans l'idée de trouver un sens à son métier, notamment, et même à comprendre comment les autres personnes peuvent être acteurs et actrices de la création. Donc moi, ça peut être avec une activité en dehors de magasin, sage-cabinet, en tant qu'opticien. Ça peut être en allant s'occuper de personnes en situation de handicap, comme de seniors.
C'est-à-dire que vous allez leur régler la vue, les lunettes.
C'est ça. Sur du temps libre, mais je trouve que, enfin, ça a donné vraiment un sens à mon métier. Peut-être qu'un jour, j'ai pas pour vocation de vivre de ça parce que j'ai aucun aspect financier avec ça. C'est ce qui m'a notamment, ça a contribué à ma paix intérieure. Mais ça m'a beaucoup aidé justement à aimer mon métier. Parce qu'un métier notamment de commerce, bah, des fois, ça peut être compliqué d'être en phase avec ce métier dans le sens où on doit à la fois être humain, mais penser aux commerçants. Et c'est vrai que j'ai plus l'approche humaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études après les études d'opticien en allant dans la santé, parce qu'on se rapproche plus du côté humain du métier. Et voilà.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en paix, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les éléments de votre parcours? À 20 ans, vous diriez que finalement, heureusement que cette idée du baptême a surgi dans votre existence pour remettre de l'ordre. C'était désordonné à ce point avant?
On peut dire que c'était assez désordonné, effectivement. Disons que j'ai eu la chance... dans des moments de solitude où, enfin, j'ai été indépendant assez jeune et j'ai eu le réflexe de penser à Dieu, de prier, alors même que je n'étais pas baptisé et que j'ai jamais fait de catéchisme, etc. Et je me suis dit, mais pour que ça vienne instinctivement, ça m'avait déjà donné des pistes de, ça peut pas venir de nulle part. Et suite au décès de mon grand-père, j'ai eu un vrai déclic qui m'a poussé le soir même à aller à l'église, et j'ai rencontré les personnes qui géraient le catéchuménat.
C'est votre grand-père qui vous avait transmis quand même quelques rudiments de la foi.
Disons que il m'a pas éduqué énormément là-dessus, mais en tout cas il m'en a parlé parce que mon grand-père étant espagnol, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en Espagne. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui l'importait beaucoup, mais il n'avait pas la volonté de l'imposer. Et je pense que c'est là que j'avais déjà compris un peu le côté de on sème des petites graines dans la tête des personnes. Par exemple, je pense à ma petite sœur Cassandra qui n'est pas baptisée et rien qu'en parlant tout à l'heure, je l'ai appelée en étant devant Lourdes, etc. Je lui parle de comment on s'occupe des malades, etc. Et je pense au fait que c'est des petites graines qui après ça sera à elle hein, et sa foi intérieure de les faire germer. Mais on m'a planté ces petites graines et je les ai fait pousser au moment où je l'ai senti. Voilà.
Donc on verra aussi tout à l'heure ce que vous vivez à Lourdes, parce que c'est la première fois que vous venez en pèlerinage à Lourdes. Le catéchuménat a duré une année et demie.
C'est ça.
Donc c'est un temps durant lequel vous aviez essayé de comprendre si ce chemin était le bon pour vous, apprendre les rudiments de la foi, vous plonger dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là, Raphaël? Une Église vieillissante, rabougrie, parce que oui, c'est l'image qui a parfois hein, et qui peut-être est justifiée d'une certaine façon.
Enfin. Ce qu'on m'avait raconté de l'Église, mais même des personnes étant catholiques hein, qui allaient à l'Église, etc. Je suis dans une ville qui s'appelle Neuilly-sur-Seine où on me disait ah, là-bas il y a que des têtes blanches. Et au début j'avais pas compris ce que c'était des têtes blanches. Et j'avais compris après qu'ils parlaient de personnes âgées
qui sont grisonnants au niveau des tempes et mais parfois même plus. Oui.
C'est ça. Et ouais. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une mixité dans l'âge. Assez impressionnante et il y a notamment un système hors été où il va y avoir plusieurs messes. Par exemple, il y a une messe qui est plutôt dédiée aux personnes assez jeunes où il y a par exemple des instruments de musique, etc. parce que les enfants font beaucoup de bruit, donc ils aiment bien un peu le côté instrument où du coup les jeunes parents y vont. Après, on va avoir les messes traditionnelles 11h, 19h et même des repas qui s'organisent après les messes entre, par exemple, 18-25 ans, 25-35 ans, ou même une plus large gamme d'âge. Et du coup, ça a été un peu un cliché dont j'avais peur, dans le sens où j'avais peur d'avoir un décalage avec les têtes blanches, disons. Et au final, ça n'a pas été le cas.
Ce que vous découvrez aussi, c'est le catéchisme de l'Église.
Oui.
Parce que lorsque... La personne qui vous accompagne, c'est Antoine, je crois.
Oui, c'est ça.
Vous dit lis ça.
Ouais, il savait que il m'avait prévenu que c'était quelque chose de costaud parce que c'est pas quelque chose qu'on conseille à beaucoup. Enfin, je suis une des rares personnes, j'en connais pas beaucoup.
Peut-être
qu'on commençait par ça.
Que vous étiez exigeant et que vous aviez besoin de.
J'ai une approche. C'est venu instinctivement, j'ai quand même une approche un peu intellectuelle, rationnelle. Même si c'est quelque chose qu'on peut trouver d'irrationnel, de la foi. Et j'avais besoin de ce cadre, notamment la lecture. Et je trouvais que le catéchisme de l'Église catholique, notamment la doctrine sociale de l'Église, nous donne un cadre assez... c'est vraiment top. Si on a le cerveau solide et qu'on a un peu de temps, franchement, c'est top. Parce que ça, j'ai l'impression que ça a vraiment remis... ça m'a fait une page de A à Z de quel cadre se donner... comment je veux évoluer, quel point je veux travailler, etc.
Donc ça a été tout ce chemin que vous parcourez. Vous vous sentez bien tout de suite dans l'Église, dans une Église. En fait, c'est ça aussi que vous ressentiez.
Il y a le côté beaucoup de sentiments. Je ressens vraiment la famille, l'Église comme une famille. Ça m'a vraiment, par exemple, mon parrain, je pourrais clairement le considérer comme une figure. Limite paternelle, il m'a beaucoup apporté.
C'est Antoine qu'on salue.
C'est ça, Antoine Clapier que je salue. Et même le côté frère et sœur, c'est vrai qu'on entend beaucoup quand on est extérieur de l'Église, frère et sœur, on comprend pas trop parce qu'on pense nous à notre famille. Pourquoi ils disent frère et sœur? Et en fait, on est réunis sur un même socle. Et c'est les relations les plus saines que j'ai jamais eues de ma vie. Parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de malsain qui vient dans la démarche de se faire, par exemple, baptiser ou qui vient à la messe toutes les semaines, même des fois tous les jours, etc., qu'on rencontre comme ça dans l'Église. On s'apporte mutuellement et je ressens honnêtement cette approche de frère et sœur. Et je me plais vraiment dans cette idée-là.
Donc, lorsque vous commencez ce chemin, vous avez déjà le réflexe de prier, vous êtes déjà en attente, tout est ouvert au fond pour que vous fassiez toutes ces étapes, vous les accomplissiez les unes après les autres.
Bah, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est chacun a sa manière de prier. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a des personnes qui ont déjà des horaires pour prier, etc. Et moi, là où j'avais beaucoup de mal, c'est pour prier, fréquemment. J'avais l'habitude de prier quand j'avais besoin de me livrer, mais que ça soit dans la joie comme dans la tristesse. Parce que c'est important, faut pas prier juste pour dire ah je suis triste, etc. Non, faut remercier, etc. J'ai pu apprendre. Ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a honnêtement un an de catéchuménat, c'est déjà assez court. Hein. Ça m'a même prendre 2 ans, même plus, pour les personnes qui n'ont pas forcément un socle de base. Parce que c'est important d'avoir des bases solides, de faire un choix en toute conscience. Et j'ai appris à prier. Par exemple, j'y pensais pas forcément, mais moi, ce qui m'a donné beaucoup de soutien pour prier fréquemment, c'était de prier dans... Enfin, les gens ne le voyaient pas, mais je priais dans le métro en allant au travail. Le matin, parce que comme je travaillais beaucoup, c'est vrai que le soir je rentrais, j'étais lessivé, je dormais, le lendemain je me réveillais, métro, boulot, dodo, et au final j'avais trouvé ma joie, ma paix en priant, en intellectualisant la prière en silence, et maintenant je la fais à voix haute, etc. Ça, c'est, on grandit, on s'adapte un petit peu, mais c'est pas, je suis pas arrivé. Et je savais direct prier, parce qu'on m'a quand même donné, par exemple, remercier. J'avais plus l'habitude de remercier que de demander de l'aide. Enfin, de l'aide, en tout cas, de
oui, d'avoir plaindre. Un peu de lâcher prise et de dire j'ai besoin d'être aidé, accompagné. Ouais.
J'avais du mal à me plaindre. C'est bête, j'étais tellement reconnaissant envers. Déjà Dieu de la paix qui m'apportait, que je me sentais mal de me plaindre pour des petites choses qui pouvaient arriver comme des grandes. Et au final, on se sent tellement bien quand on a ces deux aspects un peu balance de je fais l'état de ma journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? De quoi j'ai pas été fier? Comment m'améliorer? Voilà.
Merci Raphaël de rester avec nous. On marque une pause dans cette émission et puis juste après, nous continuons ce dialogue avec vous. Vous qui avez reçu le baptême, donc cette année 2025, le 19 avril, en l'église Saint-Pierre.
C'est ça.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre. À tout de suite.
À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Nous sommes avec Raphaël Pointier. Raphaël, vous avez reçu le baptême et on peut dire que ça, c'est un changement de vie pour vous.
Oui.
Alors ce changement de vie a été inauguré d'une certaine façon dans toute la période catéchuménale. La question qu'on se pose, vous qui êtes même pas recommençant, qui êtes converti, qui avez même cette fraîcheur du converti, comment ça vous lie à ceux que vous connaissiez, à votre entourage, ou comment aussi ça vous a décalé d'une certaine façon? Est-ce qu'on vous prend pour un drôle d'individu qui rentre dans un parcours incompréhensible?
C'est vrai que il y a beaucoup de, en tout cas, par exemple, des amis que j'ai qui sont assez jeunes, enfin, qui ont mon âge, donc une vingtaine d'années. Il y a une vision un peu rustique, un peu moyenâgeuse des fois quand on parle de religion. Enfin, en tout cas, dans l'idée de croire est moins compliquée à assimiler pour beaucoup de personnes. Mais par contre, le côté d'aller à la prière, par exemple,
Aller
à la messe tous les dimanches.
Vous y allez tous les dimanches.
Tous les dimanches. Je trouve que c'est un indispensable. En tout cas, je conseille à tout le monde de le faire. Même des choix, plus compliqués du style, par exemple, une vie de chasteté on l'oublie, mais c'est quand même quelque chose d'assez central au final. Et je pense qu'il y a un vrai décalage. Ça les a un peu choqués, mais ça les a à la fois choqués et en même temps ils se sont dit ça doit forcément être un hyper important pour Raphaël, pour un tel, etc. Pour faire cette démarche là de changer, j'ai changé sur beaucoup d'aspects de ma vie.
Mais tout de même, Raphaël, vous avez quitté votre petite amie la veille de la Semaine Sainte, c'est ça?
Oui.
Ça pose question. On se dit mais si son chemin vers le baptême rompt les relations avec son entourage, il se passe quelque chose qui peut être interprété comme négatif.
J'avais un peu la prétention, l'orgueil au début de me dire je suis quelqu'un de plutôt... Je pêche pas beaucoup, dans le sens où je suis quelqu'un d'assez sage, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que Je suis un pêcheur comme tout le monde et je pêche sur beaucoup de choses et j'avais cette vision de vie désordonnée et j'ai eu par exemple notamment dans la vie de couple un réel décalage. J'ai senti que j'avais besoin d'une page blanche, mais sur plein de, par exemple des caractères que j'avais, j'ai changé sur plein d'aspects, même le travail, etc. J'avais une vision du travail où moi si je pouvais travailler 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7, alors que même dans la genèse, il y a un jour de repos.
Et donc, tout ça a changé dans votre vie.
Oui.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a amené notamment vers cette paix que je travaille.
On peut dire que vous étiez en rupture familiale.
Oh, oui. Oui.
Sur ce plan-là.
Disons.
Où en êtes-vous?
Enfin, ma famille est au courant que je me suis fait baptiser. J'ai pu voir à quoi ressemblait un baptême avec la famille, etc., de par les catéchumènes avec lesquels je me suis fait baptiser, et c'était très, très joli. Notamment ma sœur, j'ai repris contact avec elle depuis quelques temps, et je lui parle de mon parcours, et elle a pas pu se déplacer à ce moment-là, etc., mais je pense qu'il y a un peu cette demande de... En tout cas, nous, c'est à la fois on est missionnés pour ça, un peu le côté évangélisé, etc.
Oui, vous voulez annoncer ce que vous avez reçu.
C'est ça, c'est tellement beau, ça m'a tellement apporté. Que...
Même avec un peu trop de zèle, parfois, non?
Oui. Il y a beaucoup de gens qui...
En tout cas, ça vous a permis de renouer avec votre sœur, votre petite sœur. Enfin, c'est en ça tout, que vous avez eu cette envie.
Quelque chose de très important qu'on nous enseigne, c'est par exemple « Honore ton père et ta mère ». Et il y a plein de gens qui ont des parcours familiaux plus ou moins faciles. Ouais. Et avec Antoine, on se disait, mais
enfin, comment j'honore mon père et ma mère? C'était
ça. Alors que je les respecte énormément, parce que c'est quand même mes parents, ils m'ont donné la vie, etc. Mais comment pardonner s'il est arrivé, il y a des personnes à qui il est arrivé des choses plus ou moins compliquées avec leurs parents, et ça peut être difficile de pardonner. Et en fait, on se sent tellement bien, libéré une fois que c'est arrivé. Et il faut penser à quelque chose. C'est honore par exemple ton père et ta mère. C'est pas forcément reprendre contact quotidiennement avec eux. Ça peut juste être envoyer un message. S'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Mais moi, j'ai ouvert mon cœur et je ne suis plus en colère avec ça. Je suis en paix avec ça. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis en paix aujourd'hui, parce que j'ai pu mettre à plat beaucoup de choses dans ma vie. Et j'en ai encore à mettre à plat. Et c'est ça la beauté aussi.
Donc, vous vous sentez un peu plus acteur de la création. Vous honorez votre père et votre mère, ne serait-ce que par la pensée, la prière.
Oui.
Hein, et puis être en paix avec tout ça. Parlons maintenant de Lourdes. C'est votre premier pèlerinage à Lourdes dans le cadre du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette belle famille assomptionniste, hein, et en particulier auprès des personnes en situation de fragilité et de maladie. On a le sentiment, en vous écoutant à plusieurs reprises, que la question de la fragilité, du soin, de l'empathie, de la proximité avec l'autre, c'est assez central, en fait, dans votre relation humaine.
Ça demande quelque chose qui n'est pas forcément facile. C'est à la fois mettre son ego de côté, être humble, se mettre au service des autres. Et c'est quand je parlais du parcours Zaché tout à l'heure, c'est une question que je me suis posée. Comment une personne, par exemple, qui ne peut pas parler, bouger, comment elle est actrice de la création? Alors qu'au final, de par mon parcours de catéchuménat, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus beau... Toutes ces personnes qui se mobilisent autour d'eux, ça ne serait pas...
Et cet échange qui naît de...
Mais oui,
il
nous apporte tellement... De manière égocentrique, on peut penser que c'est nous qui les aidons, mais il nous apporte tellement... Je pense à Fabrice, là, dont je m'occupe cette semaine, qui a un autisme assez sévère, etc. Il peut pas communiquer, en tout cas par la parole, mais... Il m'apporte tellement, il est hyper actif, etc. Mais ça se voit, il est heureux à la fois d'être là, c'est leur moment dans l'année, et il faut pas se dire que parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler, ils ne comprennent pas. Ils sont heureux d'être là, ils sont heureux que des gens se mobilisent, parce que quand je vois le regard de personnes qui regardent des personnes, par exemple, en situation de handicap dans la rue, hein, à Paris, etc., on peut avoir des fois un regard un peu étrange, un peu surnaturel. Enfin, y en a qui peuvent penser, par exemple, à des sous-hommes, entre guillemets, alors que non, pas du tout. Et Lourdes est vraiment dans cette démarche de les remettre au centre, et je trouve ça magnifique. Je suis très content d'être venu à Lourdes. J'ai rencontré beaucoup de... J'avais peur, en venant à Lourdes, qui est beaucoup de têtes blanches. Et au final,
et puis vous aviez peur aussi, je crois, de la dimension assez touristique, enfin du c'est monde, ça. Des commerces, de
oui,
tous les établissements de services que sont les hôtels et autres, bon, qui sont nécessaires au demeurant.
Qui sont nécessaires, qui sont
pour accueillir toutes ces personnes.
J'avais un peu une vue un peu d'un mauvais œil de tout ce qui était commerce et tout. Je me disais, mais c'est pas forcément le lieu. Et au final, je me rends compte que tout le monde, bien qu'ils viennent en tant que touristes comme pour aider, bah, ils sont là dans la démarche de venir à Lourdes. Donc déjà, c'est magnifique et c'est important de discuter avec eux comme avec des personnes qui aident. Et c'est la beauté de Lourdes aussi. Oui. Une mixité.
Donc vous diriez que pour être dans le cheminement après votre baptême, venir faire ce service et rendre ce service à Lourdes, auprès de Fabrice. Hein,
c'est ça.
Oui, en l'occurrence, c'est Fabrice qui vous accompagnait. En fait, ça consolide encore votre démarche.
Ah oui. Bah, de toute façon, je pense que personne, une fois baptisé, n'a plus. Enfin, c'est pas. On est baptisé, on a un tampon et voilà. Je vais au paradis. Je sais pas, il y en a qui se disent ça. Par exemple, aller à la messe, c'est quelque chose de central. Et je pense que le pèlerinage est quelque chose de central aussi dans sa foi. Comment? Je pense que c'est le meilleur moment, même si on, par exemple, quand on aide, faut pas oublier la démarche de s'introspecter, enfin de penser à soi aussi, de se balader dans la grotte, etc. C'est hyper important. Il n'y a pas plus beau moment. J'ai rencontré quelqu'un qui a enchaîné un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a marché pendant 35 jours, qui après a enchaîné avec Rome, et là qui enchaîne avec Lourdes. Et il fait ça, il s'est dit cette année, j'ai envie de les enchaîner. Et je trouve ça trop beau. Et on voit, il est vraiment parti avec plein de questions. Et il le sent et ça se voit. Il est apaisé. Il a pu s'introspecter de A à Z, en tout cas à l'instant T. Et il est vraiment hyper heureux de soi. Et moi, je suis heureux aussi d'être là.
Alors, Raphaël, si on faisait juste un peu le point, vous partiez dans la vie avec peut-être quelques difficultés familiales. Vous réussissez bien dans vos études. Vous devenez opticien. Vous avez une licence, je crois, même.
Oui, c'est ça.
La profession, c'était hyper important. Et vous voici maintenant baptisé après un beau parcours de catéchuménat. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Qu'est-ce qui est devenu central? Qu'est-ce qui a changé complètement dans votre perspective?
Alors, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup au travail, de par le fait que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'aime beaucoup le travail et j'avais une perception du travail où plus je travaillais, plus j'étais content. Et au final, par exemple, en utilisant mon temps libre pour utiliser une autre facette de mon travail, ou en travaillant plus 7 jours sur 7, par exemple, mais en attribuant, par exemple, le dimanche pour la messe, etc. Ça m'a donné un cadre que je compte développer. Notamment, j'étais prédestiné, disons, à partir à l'étranger. Là, c'est vraiment tout.
Vous avez une proposition de travail à l'étranger.
Ça fait un mois et demi qu'on en discute, que j'ai des appels. Et le jour même, c'était dimanche dernier, le jour même où on m'envoie le contrat, on me dit bravo, vous êtes sélectionné. Voici l'offre.
Et vous
etc.
avez dit non.
Au début, je comptais aller dire non. Et je vais à la messe. Et j'ai le Père Santis, qui est vraiment une super personne, qui me propose d'aller dîner. Et du coup, on dîne, je lui explique, on se parle de nos vies respectives et tout, et je lui raconte que je viens d'avoir le contrat. Et en fait, il me fait comprendre, et il m'a pas obligé, c'est moi qui ai écouté ses arguments, et ça m'a touché profondément, que je veux vivre mon néophyta dans ma paroisse, et avoir des bases solides après mon baptême, parce que c'est un socle dans la vie, enfin, c'est vraiment central. Travailler à l'étranger, je peux le faire dans 2 ans, comme dans 5 ans, comme.
Donc vous restez là.
Je reste là, dans la joie. Hein. Dans la joie, c'est pas un regret justement. Ma sœur me disait, faut pas que je regrette le choix, etc. Parce que c'est quand même des belles propositions. Mais je suis en paix avec cette décision. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait et j'ai hâte de voir, par exemple. Le Père Santis m'a parlé d'un livre, Les Confessions de Saint-Augustin. Il m'a dit, lis ça, c'est parfait pour quand il voyait la vie, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui, etc., la société d'aujourd'hui. Lis ça et tu vas voir que vous n'êtes pas seul. Tout le monde n'a pas eu une vie directement disons, dans, avec un minimum de péché, sans la vie de couple, etc. Et Saint Augustin en est le parfait exemple, et je l'ai lu, et j'ai trouvé qu'en fait, chacun pouvait trouver, bah, par exemple, ses livres, ses versets, ses psaumes. J'ai quelqu'un dans l'église, dans ma paroisse, qui aime beaucoup les psaumes, il est fan de ça, il se retrouve beaucoup dans ça. Chacun trouve son petit élément qu'il préfère.
Bon, ben voilà votre conseil de lecture. Le conseil de lecture de Raphaël, en cette fin d'émission, c'est lire les Confessions de Saint Augustin.
C'est ça.
Tout un programme. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes.
C'est ça.
Saluez bien Fabrice pour nous, tout votre entourage, tous ceux qui vous ont accompagnés, et bon vent pour la suite.
Merci beaucoup.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Inauguration de l'année judiciaire de la rente romaine au Vatican. Léon XIV est revenu sur la